qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
Où on parle.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Deux regards politiques sur la France aujourd'hui, entre le désir et la révolte, l'utopie et le réel. Deux cinéastes, deux films, et tellement de possibilités de réfléchir et de s'indigner. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un trentenaire tombe amoureux d'une prostituée plus âgée, rencontre un jeune SDF, le tout au lendemain d'un attentat terroriste à Clermont-Ferrand. Bonjour Alain Guéraudy.
Bonjour.
C'est le résumé très sommaire de votre sixième film, Viens, je t'emmène. Entre désir et paranoïa, deux sentiments a priori très éloignés et rapprochés ici à l'échelle d'une ville et même d'un appartement. Viens, je t'emmène est sorti mercredi. Lui a filmé des gens qui, pour la première fois de leur vie, ont eu le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans ce monde. Bonjour Emmanuel Gras.
Bonjour.
Auteur de ce documentaire « Un peuple sur la révolte des gilets jaunes », ceux de Chartres, dernier rond-point avant l'autoroute vers Paris. Vous et votre caméra au cœur battant de ce mouvement. « Un peuple » est sorti le 23 février. Enfin, les films de la semaine, à côté des vôtres, de « The Batman » à rien à foutre. Le spectre est très large, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Прошу, братья мои, розпочинайте. Видите?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Extrait de Numbers du cinéaste ukrainien Oleh Sentsov qui, d'ailleurs, a pris les armes, a-t-on appris. La guerre à 3 heures d'avion en Ukraine, monopolisant nos médias et nos pensées, et forcément la réaction de vous deux réalisateurs, on va dire politiques, par rapport à ces artistes. Couper les liens avec les cinéastes, c'est pas vraiment une solution, Emmanuel Gras.
Non, pas du tout. Au contraire, il y a énormément de cinéastes russes qui sont des opposants, ou en tout cas qui apportent une voix divergente par rapport au pouvoir. Donc, il faut surtout pas les boycotter ou les blacklister. Au contraire, les soutenir et permettre à ce qu'ils puissent montrer leurs films et continuer leur travail, en fait.
Alain Guéraudy.
Oui, tout à fait d'accord. Disons qu'en termes de boycott, généralement, ce qu'on fait, ouais, on essaie de boycotter les structures, les manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles, ou autres, d'ailleurs, ou même économiques. Mais oui, on évite de boycotter quand même les individus. Enfin, voilà, donc c'est surtout ça. Il s'agit de s'en prendre à un pays, pas aux individus du pays, quoi.
Il y a un metteur en scène ukrainien qui a dit « Des artistes soutiennent que chanter, on pourrait dire tourner, n'est pas de la politique, mais de l'art. Non, ce n'est pas seulement de l'art, l'art est éminemment politique. »
À fond. j'ai pas plus de quoi rebondir là-dessus, ouais. Mais oui, tout à fait d'accord. Oui.
Vous êtes là tous les deux pour vos deux films, on va commencer par le vôtre, Alain Guéraudy.
Bonjour.
Bonjour.
Ça vous dirait pas qu'on aille boire un café ou autre chose?
Il faudrait qu'on aille boire un café.
Pour entrer en matière, je suis en train de vous draguer là.
On peut aller plus vite que ça?
Ah non, mais moi je voudrais vous draguer normalement. Fasse ça gratuit.
Pourquoi faudrait que je le fasse gratuit avec toi?
Parce que je suis contre la prostitution. Enfin, je trouve pas ça cool d'acheter le corps de l'autre.
Ah oui?
Puis vous me plaisez trop.
Ouais. Enfin, je plais à tous les hommes qui viennent me voir.
J'en suis pas si sûr.
Sinon, ils iraient en voir une autre.
Non, mais moi, c'est vraiment avec vous que j'ai envie de faire l'amour. J'ai pas juste envie de tirer mon coup et puis ciao.
Alain Guéraudy, on ne peut pas entrer plus directement dans une histoire. Et dans un film, le vôtre, Viens, je t'emmène, face à face, Médéric, Jean-Charles Clichet et Isadora Noémie Lvovsky à Clermont-Ferrand. Un homme désire une femme alors que le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste. C'était quoi l'idée? Assez folle d'ailleurs, faire une comédie dans une réalité folle.
Oui, de le prendre sous l'angle de la comédie, enfin disons de prendre un peu de distance par rapport aux événements, quoi. Et puis peut-être plus que de traiter des attentats, c'était quand même plus de parler de l'angoisse et la parano qui s'était emparée Y compris de moi, quoi, pas mal, quoi, oui. Et de la façon dont j'ai vécu ces attentats par le prisme de la des chaînes d'infos, quoi, voilà. Et je trouve qu'il y avait matière à comédie là-dessus, quoi, voilà.
Et je disais, l'associer au désir, c'est quand même deux notions très différentes. Désirer quelqu'un alors que tout le monde a peur de tout le monde, finalement.
Ouais, le désir et la paranoïa, finalement, ça procède un peu du même principe. Enfin, c'est l'inverse, l'un est l'inverse de l'autre, quoi. Et je sais pas, il y a quelque chose de le rapport qu'on entretient avec l'autre et avec l'étranger et fortiori avec l'étranger, le musulman en période de post-attentat islamiste.
Oui.
Et voilà, donc, et puis comment dirais-je, je sais pas, je me voyais mal parler de tout ça, de parler même de l'actualité. Je suis pas très à l'aise sur l'actualité de façon didactique, solennelle ou grave, quoi. Voilà, je suis un peu partagé entre deux choses. D'ailleurs, j'ai envie de parler de choses sérieuses et en même temps j'ai envie de fantasy, j'ai envie de rigoler aussi. Ouais, oui. Je sortais de deux films plutôt même quand même très très sombres.
Et radicaux, ouais. Ouais.
Et puis, je sais pas, et puis, je pense que là, voilà, moi, ce qui me paraît, c'est surtout important aussi de chercher ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise actuellement, quoi. Voilà. Et surtout dans ces périodes-là. Et je pense que la comédie est vachement plus rassembleuse que le drame.
Et vous dites que, oui, et vous dites que cette menace terroriste a été très peu finalement mise en scène par le cinéma français, c'est vrai.
Comme tous les grands traumatismes collectifs, je trouve qu'on a du mal à en parler, quoi. Enfin, ou alors faut attendre 20 ans, quoi. L'exemple précédent pour moi, c'est le SIDA. Même moi, je me suis jamais vraiment coltiné, quoi.
Pourquoi il faudrait vous coltiner à ça?
Parce que ça imprime sacrément nos quotidiens, nos façons de vivre, nos vies.
Ma question, c'est est-ce qu'un cinéaste doit absolument se coltiner justement à...
Non, j'ai attendu 55 ans pour commencer à penser à me le coltiner. Ouais. Donc voilà, mais bon, non, on est tenu à rien, quoi. Mais après, moi, je m'intéresse quand même beaucoup au monde qui m'entoure, même si j'ai envie d'essayer d'entrevoir d'autres horizons, de déboucher les horizons, quoi. Quand même, je pars du réel, je pars de ce qui se passe devant moi, du monde dans lequel je vis. Et quand même, je pense que pas perdre le réel et donc les problèmes, mes problématiques actuelles, et donc l'actualité, ouais, ça me paraît quand même assez essentiel. Ouais.
Alors, on va commencer par le désir, parce que cet homme, il désire cette femme prostituée vieillissante, on peut dire incarnée par Noémie Lvovsky. C'est une actrice incroyable qui a pas peur de montrer le corps de son âge. C'est hyper rare, ça.
Et oui. Alors après, je sais pas si elle leur demande beaucoup aussi aux comédiennes, quoi. Parce que quand même, on a pris l'habitude dans le cinéma.
Plaignent que passé un certain âge, on leur propose pas de rôle. Habillé ou dénudé.
C'est ça, la sexualité, ça regarde plus des jeunes gens bien foutus.
C'est ça, oui, l'imagerie érotique est liée aux jeunes.
Qui vivent à Paris même, je dirais, ou à New York, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc, je suis pas sûr que, Noémie Lvovsky, là, ça a été le grand saut, mais je pense que je suis le premier aussi à lui demander ça, quoi, voilà.
Donc, mais c'est presque un acte politique de filmer cette relation, donc. Presque.
C'est un acte politique. Enfin, de toute façon, comme je disais, c'est un acte politique, finalement, de redonner droit, de sexualiser, d'érotiser des corps qui n'ont pas l'habitude de l'être, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que ça fait son chemin. On a vu une campagne de pub, là, il n'y a pas longtemps, de sous-vêtements, avec des femmes même plutôt vieilles, quoi, voilà, où on montre des femmes en slip et soutien-gorge, avec leurs bourrelets, leurs rides, les peaux fripées, quoi, voilà. Donc, ouais, peut-être que je contribue à faire avancer les choses, hein.
Filmer le sexe, justement, quel regard on porte, quelle distance on...
Comment filmer le sexe? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez politique. L'idée aussi de filmer le sexe comme on filme le reste, quoi, de pas se passer de plan large, d'être dans la durée aussi. Souvent, le cinéma, le sexe souvent ellipsé, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve les amants le lendemain.
Ou les vêtements par terre.
Ouais. Et, généralement, et c'est ellipsé, c'est beaucoup filmé d'une façon assez, assez syncopée, quoi. Voilà, à base de petits bouts, généralement. généralement la femme est à califourchon sur l'homme, quoi, parce que bon, voilà, il y a des positions érotiques assez convenues, quoi. On voit assez peu de bralettes espagnoles, effectivement, au cinéma, quoi. Donc, moi, il y avait quand même cette idée de durée, parce que quand même ça dure, même dans la vie, normalement, ça dure rarement 10 secondes, quoi, par bon. Mais sauf exception, évidemment, et de ouais, c'est ça, la durée et le cadre large, quoi, voilà, pas se priver de montrer le corps en entier, quoi. Voilà.
Avec un type pas du tout dans les canons de la modernité, quoi. Un type normal.
Ah, avec, vous voulez dire, Jean-Charles Cliché? Ouais, un type, oui, voilà. Oui. Ouais, c'est ce que je cherchais. En fait, je cherchais un mec commun, mais singulier. Voilà. Oui. Hein, désinvolte, mais concerné. Voilà. Donc, il arrive à, et lunaire et solaire, quoi.
Oui,
il arrive
un peu à avoir tout ça. D'aller voir une prostituée pour lui demander de lui faire gratuitement l'amour. Enfin, voilà. Sa singularité, elle s'affiche tout de suite à ce garçon commun.
Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que. Après, j'imagine que ils adorent, on lui a déjà fait le coup, d'essayer de l'embarquer gratos, quoi. Lui, c'est parce qu'il est contre la prostitution, effectivement, voilà. D'aller voir une prostituée, de vouloir la voir. En étant, parce qu'on est gratuitement, parce qu'on est contre la prostitution, c'est vrai qu'on part sur de bonnes bases, quoi, avec le garçon. Quoi,
le film s'ouvre là-dessus, et c'est bien, enfin, je veux dire, c'est un départ, ça y est, le truc est posé, quoi.
Ouais, disons que bon, moi en plus j'en ai un peu assez là sur mes scénarios précédents. Moi, je généralement j'aime bien les expositions. J'aime bien.
Qui sont parfois un peu longues.
On a toujours des expositions, et chaque fois on se retrouve au montage à devoir couper les expositions, arriver très vite au plot, quoi, à ce qui va nous embarquer, ce qui va nous mettre un peu en mouvement, quoi. Oui. Donc là, je me suis dit, écoute, on arrête Médéric, on le voit pas avec ses voisins, on le voit pas en train de jogger, on le voit en train de l'aborder directement, quoi.
Donc, d'un côté le désir, de l'autre la paranoïa, puis en rentrant chez lui le soir, justement, de l'attentat, Médéric croise en bas de chez lui un jeune SDF, Selim.
Tu restes pas ici toute la nuit, hein?
Non, promis, monsieur.
Tu sais où tu vas aller?
Commissariat central, j'écoute.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis en train de regarder la photo et je me demande si le troisième terroriste serait pas en bas de chez moi.
Comment ça?
Je peux pas en être sûr parce que avec un portrait robot, c'est compliqué de se faire une idée, mais...
Qu'est-ce qui vous fait penser alors que ça peut être lui?
Il est à la rue, sans endroit où aller. C'est pas souvent qu'on voit un jeune arabe sans abri. Et aussi, il a une ceinture bizarre à la taille. Ça fait quoi comme épaisseur une ceinture d'explosifs?
Vous êtes où?
Rue Le Dru.
À Clermont?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il fait en bas de chez vous?
Il m'a demandé s'il pouvait rentrer pour se mettre à l'abri, le temps de se réchauffer un peu. Moi, je l'ai fait entrer.
On va vous envoyer quelqu'un. Donnez-moi votre nom et votre adresse exacte.
Mais si c'est pas lui, vous n'êtes pas après à me reprocher je sais pas quoi. Hein.
Mais non, on ne vous reprochera rien. Dans le doute, vous avez bien fait d'appeler. Alors, votre nom?
Et pour la ceinture d'explosifs, je crois pas, mais on sait jamais.
Donnez-moi votre nom et votre adresse, on vous envoie quelqu'un.
Alain Guiraudy, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Hein. C'est vachement rare de voir de comme ça de friser la drôlerie alors que le sujet est très très grave. C'est drôle. Tout le film est comme ça. Hein.
Oui.
Alterne entre le rôle et
Surtout là, c'est-à-dire je pense qu'il y a le côté. Alors il y a à la fois, on a vu des images de Daesh, des images qui sont clairement du snuff movie, quoi, dans lesquelles des hommes meurent ou sont torturés, quoi. Oui. Et du coup, ça a vachement monté la tête à Médéric et lui carrément, il se retrouve face à un portrait robot et un portrait robot, on y met un peu ce qu'on veut de derrière, quoi. Voilà, donc et qui se retrouve à dénoncer ce jeune sans-abri arabe en bas qui on sait pas s'il est pour rien, pour quelque chose. Et effectivement, tout ça est producteur de comédie. Mais je pense que, effectivement, le fait que ça soit les uns à côté de l'autre, je pense qu'ils se renforcent l'un l'autre, quoi. À la fois le côté, l'attention dramatique ou la comédie, le rire.
Selim, c'est l'arabe, le musulman, le jeune, le SDF, c'est la première victime, quoi.
Ah oui, c'est là. Oui,
très chargé.
Effectivement, oui. De toute façon, en plus, victime effectivement des représentations qu'on a en tête, quoi, voilà, d'un contexte. Et en même temps, moi, je me suis aussi mis à la place de Médéric. Hein, c'est-à-dire, j'aime bien dire que je
vous
sais
auriez
pas
fait quoi, ça
derrière
plaît,
les.
C'est compliqué, hein.
C'est d'ailleurs,
très compliqué.
Moi, je pense que je pourrais me retrouver, appeler si j'ai une présomption de ce style-là. Je suis pas du style, la police. Appeler la police, c'est pas bien. Ouais. Voilà, bon. si on peut éviter un attentat, c'est pas mal. Et après, je sais pas quelle, je pense que je me serais pris une grosse trouille, ça m'est pas arrivé, mais je me serais retrouvé à prendre l'avion avec trois types, un turbané et une barbe et une djellaba. Je pense que quand même, il y a des sales idées qui m'auraient envahi la tête, quoi, voilà. Donc, après, on est au cinéma, on extrapole toujours, quoi. Hein, voilà, on accélère un peu les situations, on tend un peu plus les choses.
Quand vous écrivez le scénario, vous pensez à vous, justement, vous vous mettez à la place de ce Médéric ou pas?
Je mets beaucoup de moi-même dans Médéric. Oh, mais même, je mets pas mal de moi-même dans tous les personnages, je pense. Ouais.
Mais le film est fait de cela, par rapport au spectateur, c'est-à-dire de vous nous provoquer en permanence, vous nous obligez à nous interroger, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait pas, jusqu'où aller trop loin, etc.
Ouais, je pense qu'il y a même une idée de déstabilisation, quoi, d'être toujours un peu pris. Enfin, j'aime bien me surprendre moi-même, mais j'aime bien surprendre et aller contre ce qu'on pourrait attendre de la part des personnages. Quand même, la surprise, je pense que c'est un des maîtres mots du cinéma, la maîtrise et le mystère. Quoi, ça m'importe beaucoup au cinéma. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une forme de déstabilisation qui, comme vous le dites, conduit forcément à remettre en cause ses représentations et remettre en cause aussi sa façon de penser, quoi. Voilà. Je pense ça.
Tout le monde, à Clermont-Ferrand est impacté par cet attentat et même, justement, cette prostituée qui en parle à son mari devant la télé.
Pourquoi ici, à Clermont-Ferrand, je pense à ce jeune gars qui s'est fait exploser. Et aux autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là?
Je veux pas les plaindre non plus.
Ils sont morts eux aussi.
C'est eux qui l'ont voulu.
Je me demande si c'est pas pire.
Pire que quoi?
Tu meurs dans un accident ou dans un attentat ou n'importe comment. Après tout, tu l'as pas vu arriver. Mais de décider de mourir comme ça, de programmer sa propre mort, peut-être depuis des semaines ou des mois, je me dis que c'est terrible.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je sais pas, je me dis qu'on a un vrai problème.
C'est nous qui avons un problème.
Des jeunes qui s'en foutent à ce point de la vie de la leur ou de celle des autres, ça te pose pas question, toi?
Enfin, c'est juste deux, trois allumés.
Ça commence à faire beaucoup. Puis je crois que c'est pas qu'une question de misère ou de religion. Ça veut dire qu'il y a plus d'espoir. Ça veut dire qu'il y a plus rien à attendre du monde, ni de la vie. Ça veut dire que ça s'arrêtera pas comme ça. Ça te fait pas peur, toi?
Il faut pas avoir peur. C'est justement ça qu'ils veulent.
C'est très nihiliste hein, comme discours, ça, Alain Guiraudy.
Je dirais pas que c'est le discours d'Isadora qui est nihiliste. Je pense qu'il y a du nihilisme effectivement chez les terroristes, quoi. Mais elle, elle a une pensée. Je pense qu'elle est humaine. Elle a une pensée pour les terroristes, y compris pour les terroristes qui sont morts eux aussi et qui commencent à se demander et qui se demandent pourquoi elle. Comment ils en sont venus à ça et qu'est-ce que ça raconte de notre société, qu'est-ce que ça dit sur nous, quoi, où on en est, quoi, par rapport à ça, voilà. Et ça répond, en plus moi, ça répond clairement. Je fais cette séquence pour quand j'ai entendu Manuel Valls qui expliquait que les sociologues et les psychologues qui cherchaient à comprendre, c'était déjà commencé à excuser les terroristes que de chercher à comprendre. Ça m'a quand même assez fait bondir, quoi.
Emmanuel Gras, vous avez vu le film?
Oui, tout à fait. Alors moi déjà il m'a fait beaucoup rire, mais ce que j'ai trouvé c'est que le rire ne venait pas de gags ou de situations comiques en tant que telles, mais de il y avait un humour très particulier qui est celui de tout le temps tordre le réel, c'est-à-dire que une chose qui est présentée comme vraie en fait et quelques scènes après montrée comme fausse en fait, il y a comme si tout avait tout était contradictoire, mais toujours affirmé par les personnages avec une assurance totale. Et c'est ça, en fait, qui est surprenant. Et moi, qui me faisait penser à tous les avis hyper tranchés qu'on se prend dans la figure en permanence, les jugements catégoriques. Et en fait, et les mêmes personnes font un jugement catégorique ensuite inverse, avec la même tranquillité. C'est ça que j'ai trouvé très comique.
Voilà, ça s'appelle « Viens, je t'emmène » Alain Guiraudy. Et celui-là, il s'appelle...
Allez-y.
Oui, Un peuple.
Quand tu es vraiment dans la misère, tu en parles à personne. Et combien n'osent même pas franchir cette porte de la honte. Et c'est ça qui est beau aussi dans les Gilets jaunes. C'est que le 17 novembre, on s'est aperçu qu'on n'était plus seul, quoi. Avoir cette honte. Et du coup, on n'a plus honte. Et du coup, on est ensemble. Et on a cette force.
Octobre 2018, le gouvernement décrète l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Les citoyens vont se mobiliser dans tout le pays. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Gras, novembre 18, vous allez à la manif parisienne, impressionné par cette expérience de révolte populaire. Des gens, dites-vous, qui ne ressemblaient pas au peuple de gauche que j'avais l'habitude de voir battre le pavé.
Oui, c'est ça qui m'a attiré et qui m'a surpris quand j'ai été aux premières manifestations. Je suis allé à celle du 24 novembre et du 1er décembre à Paris. Et j'ai vu une population qui était déjà pas organisée dans un cortège comme je pouvais connaître, qui venait de province puisqu'il y avait vraiment l'idée de monter sur la capitale. C'était dit et répété. Et le fait d'aller aussi sur les Champs-Élysées, qui n'est pas du tout un lieu de manifestation habituel, pour les manifestations à Paris, il y avait une espèce de radicalité, une virulence et aussi des gens qui je voyais bien qu'ils n'étaient pas des habitués des manifs et qui étaient déjà assez diabolisés, en tout cas par les médiatiquement, qui avaient déjà été jugés un peu comme voilà les gilets jaunes c'est des fachos, les gilets jaunes c'est des racistes, les gilets jaunes c'est ceci, et toujours et donc moi j'avais envie d'aller découvrir en fait l'esprit ouvert en fait qui étaient ces gens, parce que je chantais bien qu'il y avait quelque chose de très populaire, que c'était vraiment une révolte populaire comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps.
Les filmer, donc les retrouver dans ce rond-point, je le disais à Chartres le dernier, avant l'autoroute vers Paris, est-ce qu'ils acceptent facilement votre caméra ?
Oui, moi quand je suis arrivé donc début décembre, j'ai cherché un rond-point et c'est une amie qui m'a dit qu'il y avait un rond-point occupé à Chartres. Et j'ai pris le train, j'ai marché jusqu'au rond-point et à partir du moment où je disais que j'étais documentariste indépendant. Alors dans le documentariste indépendant, c'est plutôt le côté indépendant qui fait sens. Le côté documentariste est plus compliqué à expliquer. Mais en tout cas, il y avait une fierté en fait pour eux de il y avait une petite méfiance certainement, mais en tout cas ils étaient aussi fiers de ce qu'ils étaient en train d'accomplir et du coup j'ai été accueilli chaleureusement.
Garder une distance critique aussi et en même temps de l'empathie et en même temps vouloir rendre compte.
Ouais, disons qu'au final, je me suis dit au moment du montage que je voulais pas rendre compte, mais rendre justice en fait à quelque chose, c'est-à-dire ne pas être dans une espèce de portrait où tout est joli, montrer la complexité, aussi la complexité de la réflexion qui est mise en œuvre. Mais rendre justice dans le sens où il s'est passé quelque chose d'important et des gens ont réfléchi à ce qu'ils étaient en train de vivre. C'est aussi quelque chose par rapport au portrait qui a été fait des Gilets jaunes, c'est-à-dire un peu, bon, ils ont des revendications, mais c'est pas clair, ils savent pas ce qu'ils veulent et puis ils sont pas organisés. Moi, je voulais, ce que je voyais, c'était des gens qui réfléchissaient à ce qu'ils étaient en train d'élaborer comme revendication, mais aussi qui cherchaient à s'organiser justement et qui se retrouvaient avec les contradictions et les difficultés internes à tout mouvement collectif.
En fait, c'est des solitudes qui se retrouvent.
Oui, alors, vraiment le point de départ, c'est ça. C'est en effet des solitudes qui se retrouvent, qui viennent de zones périphériques, urbaines, celles que je montre au début du film, des endroits où qui ont été créés pour faire des citoyens, non pas des citoyens, des consommateurs et des travailleurs consommateurs, et surtout pas des citoyens où le lien social, il n'y a pas de lieu pour le lien social. Et en fait, ils sont allés recréer du lien social dans un endroit le plus absurde pour ça, qui sont les ronds-points. Je trouvais ça, enfin, il y a un truc, un acte magique hein, presque. Et d'aller se réunir en fait autour d'un feu sur un rond-point, c'est quelque chose de très archaïque, mais finalement très profond. Ils ont remis de l'humain à un endroit où il n'y en avait plus.
De ce groupe émergent bien sûr des leaders naturels comme Benoît.
Alors ça fait je ne sais plus là combien de réunions qu'on en est. Je vois cette ferveur et cette solidarité qui se manifeste de plus en plus, et ça fait vraiment plaisir. Et je vois que vraiment on est vraiment soudés. Il y a de belles choses encore à faire, c'est pas fini. Vous ici, tous, vous pouvez être fiers de vous battre. Vous pouvez être fiers et dignes de ce que vous êtes. Et de vous élever contre ce système qui nous oppresse. On demande quoi ? On demande la justice. C'est tout. Une égalité de richesse. Nous, on le sait. On sait pourquoi on est là. Mais tous les citoyens français, eux, ne le savent pas forcément. Et pourtant, on se bat pas que pour nous, les Gilets jaunes. Mais on se bat pour eux aussi, ceux qui sont encore endormis. Faut qu'aujourd'hui on mobilise des gens par la communication, faire des actions comme vous faites. Encore une fois, je remercie tout le monde et vous êtes vraiment des gens super. Et moi, en tant que porte-parole, je suis fier d'être votre porte-parole. C'est l'une des plus belles fiertés que j'ai pu avoir dans toute ma vie. Et je vous en remercie.
un peuple, Emmanuel Grabe, Benoît, porte-parole élu par les autres, mais qui a généré par la suite, ça vous le montrez bien, des frustrations et des crises, comme dans plein de ronds-points en France d'ailleurs.
Oui, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que vivait le groupe de Chartres, c'était ce qu'avait vécu, ce qui a été vécu à peu près partout. Et c'est-à-dire, c'est vraiment les contradictions internes au mouvement, un mouvement qui se veut horizontal et qui en même temps a besoin, à un moment donné, d'élire ou d'avoir des représentants rien que pour aller voir, par exemple, d'autres groupes. On voit qu'ils vont rencontrer d'autres gilets jaunes ailleurs. Donc il y a la question de la représentation en fait qui arrive très vite, ou la question de en fait qui contrôle en fait l'information à l'intérieur même du groupe, et c'est générateur de frustration et avec une part d'injustice, c'est-à-dire ceux qui se mettent en avant, qui sont les plus investis en fait, vont être ceux qui vont être remis en question. Et en même temps, c'est normal parce que, étant donné que c'est un mouvement qui n'avait pas de structure au départ, qui n'avait pas de structure syndicale ou politique au départ, on voit bien qu'en fait, le fait de tout devoir recréer, ça ne peut pas se faire comme ça en quelques mois.
C'est un peu l'inverse de Nuit Debout, qui commençait beaucoup par un mouvement intellectuel, puis plus matériel, et là, c'est un petit peu l'inverse.
Oui, voilà. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, en effet, c'est que Nuit Debout était très intéressant au niveau des discussions, mais, par exemple, ils se sont pas, non, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait pas une participation tant que ça. Il y avait à ce moment-là les manifestations contre la loi travail, dont les gilets jaunes pour moi sont vraiment un des fruits, mais là c'est vraiment d'abord l'action et à travers l'action que on se rend compte qu'il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire, et pour moi ça c'est un processus plus révolutionnaire en fait.
Alain Guéraudy, vous qui êtes intéressé, qui avait été très intéressé par ce mouvement, vous comprenez ce mouvement sans idéologie et même très hétéroclite au niveau politique?
Oui. Disons que, comme disait Emmanuel, en plus c'est vraiment des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les cercles, dans les manifestations habituelles, qui ont pris la parole, qui ont émergé. Et puis alors, bon, moi effectivement, j'ai trouvé le mouvement. Moi, j'ai fait quelques manifs. Effectivement, je me suis retrouvé avec dans des trucs assez bizarres, en plein confusionnisme à des moments.
À savoir.
Mais en tout cas. Non, mais alors le mec, il tient un discours hyper proche de moi, hyper égalitariste, pour le maintien des services publics, pour le partage des richesses. Et au dernier ressort, le mec, il a voté Marine Le Pen étant persuadé aux dernières élections, en étant persuadé que elle représentait ses intérêts, que vraiment. Alors que bon, et avec mélange de trucs. Après, j'ai trouvé des gens vachement bien aussi. Et puis en tout cas, c'était vraiment un mouvement de classe, quoi. Effectivement, c'était un vrai mouvement de rébellion, de classe populaire, qui est étouffé par la crise, par le quotidien, sur des questions de pouvoir d'achat. C'est vrai que le catalyseur, ça a été une hausse d'une prime, d'une taxe sur les carburants, quoi. Mais effectivement, on sentait que c'était un malaise beaucoup plus profond, et puis surtout montrant aussi les impasses de notre démocratie. On sent quand même que toute une partie du peuple n'est plus représentée dans les institutions françaises.
Justement, Emmanuel Grabe, pourquoi un peuple et pas le peuple ?
Eh bien, parce que il y avait quelque chose de très fort chez les Gilets jaunes qui se définissait comme le peuple. Donc le peuple face aux élites. Donc justement, ils pensaient pas nécessairement en classe sociale, mais en termes de il y a les catégories populaires et puis une société divisée avec ceux qui dirigent de l'autre côté. Et de l'autre côté, on leur opposait le discours qui était mais vous représentez pas le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens de la nation. Donc en fait, vous êtes juste une petite catégorie. Et donc moi j'ai voulu opérer dans le titre en fait ce léger décalage et dire ok, en fait les deux choses en fait peuvent être considérées, mais finalement en se rassemblant avec tout ce côté hétéroclite et même avec le côté confus qui vient d'être évoqué, en fait c'est ça en fait. Là il y a un mouvement populaire rassemble des gens qui au départ sont pas nécessairement politisés et on fait avec en fait, et là peut-être qu'il y a on fait peuple en fait à ce moment-là. Ou alors, on pourrait dire, on fait classe, mais bon, c'est comme c'était pas dans le discours, j'ai gardé peuple.
Après avoir décrit le groupe, donc, et ses individualités, avec ses très beaux portraits, justement, de passé très cabossé, vous les suivez à Paris, avec les autres. Et c'est ça la force du cinéma et de votre film, c'est le temps passé avec eux avant, qui rend ces images de manifs parisiennes, pourtant vues en boucle sur les télés, beaucoup plus prégnantes. Vos protagonistes dans la manif, avec notamment le jeune Alan, l'un de vos personnages, personnage qui tente de faire vivre à l'image ce qu'il vit, lui.
On n'est pas un mouvement violent, on est là pour pas foutre la merde, on est là pour juste revendiquer notre droit à manifester. C'est dingue. Et franchement, les gens, ils en ont marre, là. Et tous les week-ends, c'est comme ça. Tous les week-ends, on met les CRS contre nous et ça se passe comme ça. Et vous avez pu voir aujourd'hui sur mes différents lives qu'avec la presse, ça se passe super bien, qu'il n'y a pas eu de débordement, qu'il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a rien eu aujourd'hui. Je vous ai fait montrer des policiers à deux où il y avait plus de 300 manifestants et où ça se passait très bien. Et arrivé là aujourd'hui, regardez, regardez. Voilà. Si aujourd'hui, là, on voudrait foutre la merde, eh ben on le ferait, sauf qu'on ne le fait pas. Regardez, il y en a un là-bas qui s'occupe de la coordination, il va voir les CRS et il essaie de trouver des solutions. Moi, je vous dis, je viens manifester à Paris pour que ça se passe bien, pour mes revendications, parce que j'ai peur pour ma retraite, j'ai peur pour juste l'écologie, la planète, vous voyez. Et arriver là, et ben voilà comment ça se passe. Tous les week-ends, on ne veut pas ça. On veut donc le gouvernement changer. Putain. Le gouvernement changer, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Putain. Vous voyez, regarde les cailloux, je vais en prendre sur la gueule à ça. Moi je justifie pas, je vous fais montrer sur le terrain, qu'on dise pas je suis pro gilet jaune ou pro. Je vous fais, voilà, je viens prendre un caillou dans le cou. Je vous fais montrer, voilà. Et ça part en cacahuète. Et voilà, ça part en cacahuète.
Voilà. Emmanuel Gras, pardon pour cette énorme question, mais qu'est-ce qui leur a manqué à la fin?
Oula, ah oui, je m'attendais pas à ça. Ce qu'ils ont eu, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu une grosse répression qui a fait peur, qui a, voilà. Et ce qui leur a manqué, je peux pas dire. Moi,
une structure.
Je pense que, oui, une structure. En fait, c'est qu'à un moment donné, un mouvement, c'est pour qu'il existe vraiment, il faut qu'il structure. Mais du coup, se structure justement sur des idées et que ça demande du temps. Le confusionnisme pouvait exister. Et en fait, il y a des revendications qui étaient des revendications d'égalité. Non pas d'égalité des richesses totales, mais en tout cas, on voyait bien qu'en fait, finalement, c'était des revendications au fond populaires, donc de gauche, en fait, parce que les services publics ou d'avoir contre l'ISF, enfin pas contre l'ISF, contre le retrait de l'ISF, etc. Mais tout ça demandait à ce que ça s'organise, et il leur a manqué, en fait, voilà, si je peux répondre en fait à cette question. Non, ce qui leur a manqué, c'est une convergence avec d'autres, des structures existantes comme les essentiellement syndicalistes.
Oui, oui.
Et où il y avait beaucoup de syndiqués dans le mouvement, mais les structures syndicales ont une relation très compliquée avec ce mouvement, et la faute est un peu des deux côtés.
Un peuple, Emmanuel Gracq, sorti depuis le 23 février, et puis Viens, je t'emmène, Alain Guéraudy, est sorti ce mercredi. On se retrouve après Corday pour parler des films de la semaine.
Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house, watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit don't make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job, shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house, watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Yeah, 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 yeah.
Thank you. Les sorties, Laurent, on va commencer mais par oui. une... Et parce qu'il ressort, même dans une seule salle parisienne, au MK de Beaubourg, c'est ce premier film Olga, signé Elie Grappe, une jeune gymnaste ukrainienne de 15 ans, installée en Suisse pour s'entraîner pendant les manifs sur la place Maïdan, où se trouve sa mère, à Kiev.
C'est un très beau film. On avait reçu son cinéaste, oui. Premier film d'Elie Grappe, oui. Et il nous reste à souhaiter que d'autres salles en France, pas seulement à Paris, pas seulement une salle à Paris, mais prennent leur relais, parce que il faut évidemment, à l'aune des événements actuels, voir et revoir Olga.
Bon, alors à l'inverse, The Batman,
autre chose, c'est
la transition est compliquée.
Voilà.
De Matt Reeves avec Robert Pattinson, un grand polar crépusculaire, plus proche de Seven que de la franchise, où il s'agit pour Batman de sauver la ville de Gotham, de la corruption à grande échelle, oui. Tout ce corrompu sauf le flic, le lieutenant Gordon, le grand Jeffrey White, qui l'accompagne dans sa mission. Il faudra attendre plus d'une heure avant que la chauve-souris ne s'envole dans la nuit, tandis que sa Batmobile, dans une course-poursuite folle, ne décolle pas du bitume. Pas de Joker non plus, un Colin Farrell méconnaissable en pingouin et un très grand John Turturro en mafieux. Batman débarrassé de ses gadgets et Bruce Wayne, Pattinson plus mélancolique tumeur. D'ailleurs, Reeves dit que Bruce Wayne, c'est Kurt Cobain dont il a repris le morceau Something in the Way. Alors oui, 3 heures, c'est trop long, même pour un grand polar, même assez inégal, sauf quelques grandes scènes tout à fait ahurissantes, comme ce plan renversant, dans tous les sens du terme, de Batman dans le feu, ce genre de plan qui vous donne des frissons avec l'envie de se lever et d'applaudir devant ce pur plan de cinéma, car Matt Reeves, habitué des franchises, a réussi une chose dans The Batman, c'est donner une vision très personnelle au mythe de Batman. Voilà. Ali et Ava de la britannique Clio Barnard, Laurent, une comédie romantique dans un contexte social dur. Une femme et un homme entre deux âges, elle dans un environnement très xénophobe et lui musulman anglo-bengalais dans une famille très traditionnelle.
Oui, alors bon, disons, clairement on n'est ni chez Mike Lee ni chez Ken Loach en termes d'efficacité sociale et narrative. Barnard, elle aussi, toujours entre le documentaire et la fiction pour son quatrième long métrage, avec des choses qui frisent et frôlent et parfois tombent dans le cliché. Hein. Elle aime le folk, il aime le punk et ils iront se retrouver à un moment un autre à mi-chemin. Bon, voilà.
Sacré acteur quand même. Hein.
Pardon ?
Sacré acteur.
Comme d'habitude avec le cinéma britannique, ça de ce point de vue-là, le contrat est rempli et on les suit avec beaucoup d'intérêt, voire de passion. Effectivement, disons qu'on aurait aimé un peu plus que le feu brûle. Voilà.
Là où perchait de Raphaël Le Mathier, un doc autour d'une communauté dans un petit village d'altitude des Alpes de Haute-Provence. Le temps qui passe, la solitude et les infortunes de la vie.
Oui, merveilleux documentaire parce que en y allant, on se disait oh tiens encore une fable écolo dans les Alpes de Haute-Provence. On va nous vendre le berger, les chèvres, la montagne, le thym et la farigoulette. Bon, c'est pas du tout ça. C'est un portrait incroyablement à la fois noir et humoristique de cette quinzaine d'habitants. La mort rôde autour d'eux, il y a le cancer, il y a un suicide, il y a un enterrement qui commence d'ailleurs le film de façon très emblématique. Et néanmoins, évidemment, il y a aussi le réel, la vie, les saisons, les jours, l'amusement, les fêtes entre voisins, etc. Bref, il arrive, Raphaël Mathier, à capter toutes ces petites choses, tout ce qui fait la vie de ce village, la vie de cette communauté humaine, individuelle aussi. Et c'est très très beau, ça s'appelle « Là où perché ».
Belfast de Kenneth Branagh, un cinéaste se souvient de son enfance à Belfast, exactement comme l'avait fait, moi j'adore ce film, l'anglais John Boorman dans Hope and Glory, ce petit garçon sous les bombes de la Seconde Guerre. Là, on est en été 69, Buddy, donc Branagh, jeune à 9 ans, dans les quartiers ouvriers au nord de Belfast, où il vit heureux et choyé, notamment par ses grands-parents, jusqu'à cette guerre de religion où les protestants majoritaires chassent les catholiques. Sa petite rue est en guerre, son père menacé de mort, et lui est amoureux d'une petite fille catholique. L'écran est large, le noir et blanc sublime, et le regard très idéalisé, c'est vrai, de Branagh.
Oui, alors on préfère là que quand il l'adapte pour la 25e fois,
ça,
Shakespeare, Agatha Christie, même Disney, hein, parce qu'il a fait un Cendrillon, on n'en revient pas. Néanmoins, moi je suis un petit peu gêné par cette espèce de millefeuille, hein, une couche de comédie, une couche de gravité, une couche de comédie, une couche de gravité. Au bout d'un moment, j'avoue que c'est un peu indigeste.
C'est tellement sincère en même temps.
Et le clip d'ouverture sur la ville actuelle de Belfast est quand même lui lui, vraiment totalement indigeste.
Combinat, premier doc signé Gabriel de TG d'Or. Un combinat, bien sûr, c'est un complexe industriel au sein duquel les entreprises d'un même domaine de production coopèrent pour obtenir les meilleurs rendements. Et dans ce contexte, Léna, jeune mère, fille de métallurgiste, enseigne la salsa.
Oui, alors c'est vraiment un film qui, si je veux dire, tombe à pic sur le portrait de la Russie actuelle. Un portrait sans concession, c'est un pays entre qui aussi entre le poids de son passé stalinien et communiste, l'industrialisation à outrance, donc la pollution, la propagande d'État, l'aspiration évidemment à la liberté de ses citoyens, mais qui ont beaucoup de mal. Poutine, vu comme un ciment, c'est dit comme ça dans le film, on a besoin d'un dictateur, il y a des choses qui résonnent avec l'actualité de façon sidérante. Il faut vraiment aller voir ce combinat pour comprendre, envisager les choses telles qu'elles se passent à nos portes en ce moment.
Il faut aussi vraiment aller voir Rien à foutre, premier long métrage d'Emmanuel Mare et de Julie Lecoustre, ou comment capter une jeunesse contemporaine entre connexions multiples et grandes solitudes, celle de Cassandre. Adèle Exarchopoulos, hôtesse de l'air locaux, sa fuite en avant entre vols multiples, amant d'un soir, exigence absurde de sa compagnie. Finalement, le véritable voyage qu'elle va entreprendre, ce sera celui de son retour dans la maison familiale après un deuil qu'elle a tenté d'exorciser jusqu'à cette image finale, exacte cliché, sans cliché de notre époque, avec ses rêves stupides et absurdes. Rien à foutre. Et puis Robuste, Laurent, de Constance Meyer, premier film aussi.
Bien sûr, portrait d'abord de Gérard Depardieu, on l'a dit, mais pas seulement, heureusement, c'est pas un film, pas un film documentaire, et il a face à lui un autre poids lourd, voilà, on va dire, Déborah Lukumuna, mais qui s'en tire très très bien, parce que je pense que c'est pas facile pour une jeune actrice de passer la rampe de la cohabitation avec Gérard Depardieu, et elle le fait très très bien.
Deux robustes, très vulnérables, finalement. Oui. Non, il est très vachement bien, ce film, Robuste. Et enfin, La lettre inachevée de Mikhaïl Kalatozov, Laurent, c'est une reprise.
Il fera, c'est le film qui précédera Sol Kuba, qui est un pur chef-d'œuvre, mais celui-là est tout à fait intéressant. Quatre géologues confrontés à la nature qui va finir un peu par se venger. C'est un très très beau film.
Signalons un festival, le 44e Festival international du film de femmes de Créteil, à partir de vendredi prochain. Et jusqu'au 20 mars, invité d'honneur, une cinéaste qu'on aime beaucoup, c'est Claire Simon.
Ah, oui.
Et un hommage à l'américaine Suzanne Sontag. Et maintenant, on a un peu de temps pour les cadeaux, il y en a pas mal.
Très bien. Alors, effectivement, d'abord, Alain Guiraudy, on vous offre ce DVD qui est assez sidérant, qui est publié par Rimini, qui est une boîte d'édition qui fait vraiment des choses tout à fait intéressantes. C'est, figurez-vous, 6 heures de conversation avec Arthur Penn. 6 heures de conversation avec Arthur Penn et un cinéaste qui s'appelle Amir Nadiri. Alors, Arthur Penn, Missouri Breg, tant d'autres beaux et bons films qu'on a beaucoup beaucoup aimés, cinéaste peut-être assez méconnu quand même dans le panorama américain, et vous allez voir, ces 6 heures d'entretien, ça donne vraiment envie de voir et de revoir tous ces films. Les conversations sont à la fois professionnelles, intimes, personnelles entre ces deux-là, c'est très très beau.
Écoutez, les autres cinéastes, finalement.
Non, alors, 6 heures de mise en scène, de discussion. Vous n'avez pas un film?
Bon, j'ai un livre.
J'ai un livre.
Non, j'aime bien les écouter, mais 6 heures, c'est vachement long.
Ben, vous verrez ça en plusieurs parties.
Il y a des chapitres, c'est très bien. D'accord. Fait, on peut glaner ce qu'on a envie d'écouter.
On verra qu'il y aura 6 heures de conversation avec Alain Guiraudy, ce qu'il dira à ce moment-là.
Non, 6 heures de conversation.
Ben, si, bien sûr que si.
Alors, pour fêter les 100 ans.
Et lui, vous l'aimez beaucoup.
Par Pasolini, on a pensé que Pasolini c'était un cinéaste qui pouvait vous intéresser.
Ah, à fond, ouais. Ah, c'est, voilà, mais c'est pour moi aussi, Pasolini.
Mais c'est pour vous aussi, bien sûr. Entretien, merci bien. Entretien avec John Hall, Hallyday au seuil, de les voir film par film. C'est un dialogue là aussi très très beau, très intéressant. Avec évidemment ce cinéaste qui ne vous laisse pas indifférent, on l'a bien compris.
Vous l'avez découvert quand, Pasolini? Tard ou pas?
Ouais, tard. Oui, tard. Ouais. Moi je pense que j'avais. J'avais 30 ans passé, c'était très tard, Et c'est même plus par la télé, hein, c'est genre par des vidéos, par des VHS, je crois que j'ai découvert, Acatone,
Théorème.
Théorème qui est pas mon préféré, l'évangile selon Saint Matthieu, ça c'est des trucs que j'ai commencé à le voir en VHS en fait. D'habiter à la campagne, de grandir à Villefranche-de-Rouergue.
Et pour Emmanuel Grain.
Pour vous, Emmanuel Grain, on va vous offrir d'abord un livre. Mais oui, un livre c'est un livre d'Alain Guiraudy qui est publié chez POL, qui s'appelle Rabalair. Et alors, vous verrez, dans ce livre, ça commence par « Je me lève à 6 heures en pleine forme ». Et puis, 1039 pages plus tard, ça se termine par « On a tout le temps pour ça. Voilà, et ben entre les deux, vous aurez eu un immense fleuve de mots, de phrases sans blanc. C'est un torrent dans lequel on rêverait d'avoir le temps de se plonger une fois. C'est compliqué, hein, c'est comme 6 heures d'entretien avec un metteur en scène. C'est très compliqué de le faire en une fois. Mais
il va pas lire en 6 heures le bouquin. Hein.
Non, de toute façon.
Il va rester longtemps avec vous, Emmanuel.
Et c'est un vrai plaisir, avec plein de résonances sur d'ailleurs ce qu'on vient de dire sur le autour de vos deux films. C'est, moi je trouve, extrêmement plaisant à lire. Ça se suit, ça se dévore, ça se déguste vraiment. Donc j'espère que vous aimerez le livre d'Alain Guiraudy. Et puis vous qui vous attachez beaucoup à la France d'en bas, eh ben on a pensé que le dernier film de Bruno Dumont, qui s'appelle France, mais qui est plutôt sur la France d'en haut et de très en haut, ben vous plairait, parce que Léa Seydoux, Benjamin Biolay, Blanche Gardin, ça dépote avec une musique en plus originale de Christophe, c'est chez AFP Sélection. C'était un des films très intéressants du dernier festival de Cannes, qui est hélas passé un peu inaperçu.
Merci à tous les deux, merci Alain Guiraudy, viens je t'emmène, sorti mercredi, merci beaucoup Emmanuel Gras, Un peuple, un sacré documentaire. Merci à notre belle équipe, nos deux réalisateurs Laurent Thomas et David Leprince. Merci à Christophe Magère pour la préparation et à Thierry Dupin pour les choix musicaux. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.